marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
France Inter, au micro René Papu qui vous invite à écouter.
Le père Joanet, agent double de l'Auvergne.
On écoutait tous le père Joanet qui était vraiment la vedette de la station. C'est vrai que c'était le point de repère et que le père Joanet, quand il commençait à parler à Radio Auvergne, il fallait se taire dans la maison.
Lorsque le grand-père ou le père remontait du jardin pour écouter sa chronique le samedi matin, alors il disait « Taisez-vous les enfants, écoutez le vieux ».
Ah, ben bonjour la compagnie, tiens, j'avais ben une quinzaine d'années, vous m'écoutiez. Et bien à présent, voilà, avec la télévision en Auvergne, et on va se regarder les yeux dans les yeux toutes les semaines le mardi.
C'est le hasard qui nous a fait découvrir dans les archives de l'INA le personnage du père Joanet. Le titre de son émission la plus célèbre, et dont il reste le plus de traces, avait tout pour nous plaire, le réveil du passé. Nous avons appris que la voix du père Joanet s'est d'abord fait entendre après la guerre, sur les ondes de Radio Clermont-Auvergne, émetteur sur le plateau d'Enza, 230 mètres ondes moyennes. C'était la voix d'un paysan d'autrefois, nous a-t-il semblé, ou alors elle était très bien imitée. En 1964, Télé-Auvergne vient rejoindre Radio Clermont-Auvergne, dans les mêmes locaux, agrandis, rénovés, qui seraient aménagés au-dessus d'un cimetière du XIIe siècle. Le père Joanet apparaît alors sur les étranges lucarnes et il ressemble à ce qu'on pouvait imaginer, la tête sous le béret avec une moustache. À y regarder d'un peu plus près, c'est peut-être une moustache postiche. Mais ce temps est si lointain, il est difficile à explorer. La double station auvergnate appartenait à l'ORTF qui fut dissoute par Valéry Giscard d'Estaing, élu d'Auvergne. Deux cultures distinctes se séparèrent alors. FR3 d'un côté, Radio France de l'autre, qui créa sa radio dans le Puy-de-Dôme. En tout cas, le dictionnaire de la radio de Robert Pro, qui est un instrument de travail exceptionnel, très complet, ne mentionne pas le père Joanet.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
C'est alors qu'on nous a dit que le père Joanet serait le pseudonyme d'un certain René Papu. Mais pas davantage de mentions de René Papu, dans le même dictionnaire de Robert Pro. En revanche, le nom figure dans les annales politiques du Puy-de-Dôme. Un René Papu s'est souvent fait élire à l'ombre de Valéry Giscard d'Estaing, le même qui a supprimé l'ORTF. Adjoint dans sa mairie de Chamalières, conseiller général du Puy-de-Dôme en 1979, ce serait le père Joanet. Il est vrai qu'il est sacrément utile pour être élu d'être une vedette de province. L'autre jour, s'il y avait eu un scrutin à Berduy dans l'Orne, les Percherons auraient certainement préféré Jean-Pierre Pernaut à Emmanuel Macron. Giscard était châtelain à Chanonat, rejeton d'une famille patricienne. A-t-il été heureux d'avoir le père Joanet comme agent électoral en Auvergne, Joanet ou René Papu?
Et c'est maintenant au tour du représentant de la municipalité de Chamalières de prononcer quelques mots avant de dévoiler la plaque qui marquera à jamais le nom de René Papu.
Au nom de la municipalité, je suis très heureux de dévoiler la plaque René Papu et de voir remplacer Saint-Victor par un autre saint.
Les majorettes de Clermont, ravissantes à souhait, avaient tenu à apporter à cette cérémonie la note de gentillesse et de charme. De nombreuses personnalités s'étaient déplacées. Et tout cela pour rendre hommage à celui qui fut presque à l'origine de notre station et qui en reste un des animateurs les plus dynamiques et les plus populaires. J'ai nommé René Papu. C'est sur notre station tout entière que réveillit l'hommage que l'on rendait à notre ami. Et tout cela sous le signe de la bonne humeur, car tout le monde le sait, là où René Papu est passé, la joie est née. Bravo René Papu.
Sans doute, mais À l'examen, il y a quelque chose qui cloche dans cette archive. Elle est datée de 1973, le nom de Valéry Giscard d'Estaing n'est même pas prononcé, et René Papus, surtout, né en 1923. À La Palice, dans le Bourbonnais, il est alors en pleine forme. On n'honore pas ainsi un bon vivant. Cette mise en scène est peut-être trop belle pour être vraie. Elle vous a un air de canular. On pense aux copains, le livre de Jules Romain, le film de Claude Berry, les copains qui ont rendez-vous au pied de la façade de la mairie d'Ambert, puis de Dôme, mais la mairie est ronde et ne se retrouve pas. Jules Romain. Et si on cherchait la trace de Papus chez les écrivains de l'époque ? Le grand œuvre que le regretté Jean Anglade vient d'achever à plus de 100 ans. Et trop prolixe, on n'en connaît pas d'édition complète avec un index. Pas le temps de rechercher. Mais Alexandre Vialat, peut-être. Il savait tout du Massif central dont il disait que c'était pas n'importe quoi.
Nous l'avons tous dessiné à l'école sur nos cahiers de géographie, avec ce trait marron qui représente les montagnes. Il venait juste après les Vosges, qui se figeaient en angle droit dans le coin de la carte. Quand on avait déjà inscrit l'élan des Pyrénées dans la zébrure d'un éclair, feuilleté le Jura comme un croissant et déposé le poids des majestés alpines dans l'épaisseur d'une accolade calligraphiée. Au-dessous, en tirant la langue, on écrivait « Massif central ». On le posait au milieu de la France comme une espèce de patte d'oiseau qui la retenait fermement sur le sol avec l'ergot des monts du Gévaudan et les trois doigts qui se nouent à peu près aux sources de l'Allier, de la Loire, Vivarais, Velay, Margeride. Et par les monts du Livradois, nous piquions d'une plume acérée, sergent-major ou baïonnette, trois points qui parcellent papier, Vichy au nord, Clermont-Ferrand et Aurillac.
Du philo, lit Vialat. Alors, les chroniques de la montagne de Vialat, on sait qu'il les confiait aux mécaniciens du Paris Clermont pour les faire parvenir au quotidien. Elles sont éditées en deux volumes dans la collection bouquins, donc deux index. Dans aucun des index, le nom de René Papus n'est signalé, alors qu'à la lettre P, Pascal, par exemple, né à Clermont-Ferrand, apparaît pour une trentaine d'occurrences. Il est vrai que Vialat habitait à Paris, en face de la prison de la Santé. C'est un endroit un peu ingrat. On pouvait même pas capter Radio Clermont-Auvergne. Radio Clermont-Auvergne, dont les archives attestent que René Papus savait lui aussi bien décrire le Massif central.
L'Auvergne au micro. Une émission de l'Association départementale du tourisme et du thermalisme, réalisée par René Papus.
Au départ de Clermont-Ferrand, nous choisissons la nationale 141A, appelée surtout route du Puy-de-Dôme. Et bientôt, ce sont des pentes directes très accentuées. Déjà, à chaque tournant, nous découvrons d'admirables panoramas de Clermont, de la plaine et de ses bordures. Plus loin, sur notre droite, dans une carrière de basalte, s'élève un monument rappelant le souvenir de 22 otages, innocentes victimes fusillées par les Allemands. Puis c'est le plateau de la Baraque. Le Puy-de-Dôme s'offre à nos yeux avec son impressionnante majesté.
Ainsi de suite. Alors pour couvrir la région, Radio Clermont-Auvergne, à ses débuts, disposait de chroniques. L'Auvergnate, la Cantalienne, le Billet Bourbonnais, je ne sais pas où était la chronique de la Haute-Loire, et de moyens de reportage. On suivait ainsi avec le plus grand soin les événements patriotiques, le festival de musique militaire à Vichy, l'inauguration de l'avenue Delattre de Tassigny à Clermont. On était encore dans le climat de la libération. Et le jeune René Papus, auparavant disquaire à Radio Vichy, avait été de l'aventure de la première radio implantée par les FFI.
Des pionniers du son accompagnés de la première speakerine françoise et d'une trentaine de 78 tours prêtés par des auditeurs s'installent au château Saint-Victor, 137 avenue de Royat, Chamalières, 5 octobre 44, né ici Clermont Radio, diffusion française.
Il y avait ici une grande baie vitrée qui était en quelque sorte le salon d'attente. Alors on pénétrait dans ce salon d'attente et nous étions gardés par la police à l'époque. Et oui, c'était au lendemain de la libération, mais le tout premier studio, C'était ici.
Une pastourelle jolie ritournelle de chez nous. Oh, oh, redira l'écho dans les bois si beaux de notre campagne. Oh, tu reviendras demain, passe ton chemin, laisse-nous.
Tentures fanées, moquettes râpées, matériel bricolé disparaissent peu à peu, tandis que les émissions se multiplient. Clermont-Auvergne s'impose, soutenu par des milliers d'auditeurs qu'un personnage inventé de toutes pièces fait sourire en faisant avaler les communiqués agricoles, le père Joinet.
Lorsque je pénétrais, je frappais d'abord, et alors on disait « entrez, entrez ». Bonjour, bonjour la compagnie, bonjour monsieur Condat. Eh bien, je suis bien content de vous voir, tiens. Aujourd'hui, je suis venu vous voir, c'est parce que, figurez-vous que j'ai des pucerons sur mes salades, et je ne peux pas m'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, écoutez, père Joinet, il faudrait que vous fassiez ceci, ceci. Alors, on me répondait, et alors, en fonction des saisons, en fonction du temps, eh bien, on donnait des conseils que je donnais, que je transmettais aux auditeurs.
Ainsi donc, ce qu'on soupçonnait serait exact, c'est Papu lui-même qui le dit, le père Joinet serait un personnage inventé de toutes pièces. On sait que devant sa radio, l'auditeur est privé de la vue. C'est sans doute pour ça que Papu, avant d'aller faire ses entretiens chez les bonnes gens, se composait son personnage. C'était justement parce qu'il ne pouvait pas être vu qu'il chaussait son béret, allongeait sa moustache, enfin qu'on prenne qui pourra.
Quand il sortait de la voiture, il cherchait un coin tranquille. Il se grimait, parce que c'est lui tout seul qui se grimait. Hein. Il se collait sa moustache, sa fausse perruque, sa perruque et tout. Il se grimait, puis il sortait, et il sortait d'entrée en père Joinet. Et là, ça marchait bien. Les gens le prenaient tel que. Pratiquement, moi, j'ai jamais vu, pendant qu'on a tourné le père Joinet, des gens dire « c'est Papu ». Ça a toujours été pour les gens le père Joinet, ils le prenaient comme tel.
Eh bien, madame, je vois que vous êtes en train d'admirer ces belles Canada d'Auvergne, là.
Ah, c'est le père Joinet. C'est le père Joinet. Les gens le connaissaient comme ça. Et puis, il avait cette sensibilité, donc, qui reflétait dans les reportages. Là, c'était quelqu'un qui était très près des gens et qui était à l'écoute des gens.
Alors, une des raisons pour lesquelles la marche de l'histoire rend hommage au père Joinet, c'est aussi que son émission numéro 1 s'appelait « Le réveil du passé ». Vialat disait « L'homme a besoin de choses passées ». D'ailleurs, ajoutait-il, « L'année qui vient a vite fait de devenir du passé. C'est ainsi qu'Allah est grand ». C'était sa phrase favorite, c'est pas une phrase qu'aurait reprise à son compte le père Joinet. Voici le père Joinet à Courpierre. Henri Ponchon, dans un livre récent, L'enfance de Chanel, raconte qu'il y avait eu dans cette petite ville un port, puis une ligne de chemin de fer. C'est pour cela que la famille maternelle de Chanel, une famille de forains, s'était un moment installée là. Le train de Courpierre permettait de rejoindre Clermont, Brive, Paris. C'est ainsi qu'à Courpierre, Coco Chanel fut petite. Rien n'amuse tant les gens que le sifflet du chef de gare, écrivait toujours Vialat. Mais voilà, observe le père Joinet, il n'y a plus de train de voyageurs.
À Courpierre, j'ai rencontré Jean Enjolras. Ah, d'où donc c'est que vous êtes, l'ami ?
De l'Ardèche.
De l'Ardèche, et vous avez bien un accent du pays, hein, là-bas.
Oui, oui, oui.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes un ancien chef de gare et que vous avez bien roulé votre bosse, hein, quand
oui,
même.
Oui, je suis parti de l'Ardèche depuis 1918.
Voilà.
Je suis parti premièrement en Allemagne. Pendant la guerre,
c'est ça.
Et après j'ai fait l'occupation.
Et où?
Ensuite je suis parti en Tunisie, j'ai fait 2 ans de Tunisie. Après avoir été libéré,
je suis rentré
comme électricien au puits.
Voilà.
Alors, ensuite je suis rentré au chemin de fer.
Et au chemin de fer, vous avez fait d'une part le puits, mais après vous êtes allé à Langeac, je crois.
J'ai fait Langeac, oui. J'ai fait la Chaise-Dieu. J'ai fait Courpierre.
Et Courpierre, où c'est que vous êtes à présent?
Et puis Guillaume.
Dites donc, qu'est-ce que c'est que vous en pensez de la disparition de cette ligne de voyageurs?
Oh bien, j'en pense
que ça
rendait bien service.
Ça vous a pas fait de la peine?
Si.
Et alors à présent, on voit plus passer que des trains de marchandises.
C'est-à-dire maintenant.
Voilà.
Voilà, le Massif central est de plus en plus pauvre en train, mais il reste riche en arbres. On sait que les arbres parlent entre eux en s'envoyant des messagers qui sont les oiseaux. Ça, c'est une remarque qui n'est pas d'un poète auvergnat, mais d'un poète breton, Saint-Paul Roux. Et de temps en temps, Le hasard fait que ces oiseaux s'installent chez des hommes, où ils apprennent des chants patriotiques qui n'appartiennent qu'aux hommes.
Eh bien, ce matin, c'est un réveil du passé un petit peu insolite que je vais faire avec un ami à Sébazan, avec Monsieur Averlan. Bonjour, Monsieur Averlan.
Bonjour, monsieur.
Ah ben, vous savez, je suis bien content de vous voir, parce que on m'a dit dans le pays que vous aviez un spécimen, il est derrière nous, c'est,
oui.
C'est un merle.
Oui.
Et puis Dieu sait s'il est en train de japper, hein.
Oh, oui,
ah, il
veux,
y va, savez. La manœuvre. Voilà, voilà, il chante même la Marseillaise de temps en temps.
Oui, puis alors, il la chante.
Il la chante. Dis-toi, d'abord, causons donc de nous.
Oui.
Quel âge donc vous avez?
82 ans.
82 ans, et vous êtes venu vous implanter en Auvergne il y a quelques années déjà.
Oh, oui, il y a 17 ans.
17 ans,
ouais.
Et vous y trouvez bien.
Bon, c'est à croire, hein, puisque je n'ai pas reparti, c'est que je tombe bien dans le pays.
Vous êtes de quel endroit? Vous êtes du Nord?
Non, du Pas-de-Calais.
Ah, du Pas-de-Calais, oui. Oh, bon, machin, enfin,
oui.
La lisière vaut pas mieux que le drap,
d'accord,
hein.
D'accord,
c'est
d'accord.
Ça. Et alors, comment c'est que vous employez votre temps, là?
Oh, ben je plante mon temps à travailler un peu des champs, un peu de toiture, ainsi de suite, quoi, pour les amis.
Et qu'est-ce que vous pensez des Auvergnats?
Eh ben, que c'est des braves gens. Oh oui.
Ils vous ont adopté, vous les avez adoptés.
Oh oui, on peut pas mieux.
Eh ben, mais à la bonne heure, c'est ce qu'il faut. Oh, mais arrête-toi donc, voilà mon eux, vous avez un individu là, il y va, hein.
Oh oui.
Et alors. Eh ben, mon vieux, il a de la voix, hein. Mais alors, maintenant, je vais m'adresser à ce fameux spécimen. C'est pas la peine de crier, on va causer tous les deux à présent. Tu vas nous la chanter, cette Marseillaise. Comment donc c'est que tu la chantes? Allez, allez, comment ça dit?
Alors, on revient à une musique tout à fait d'Auvergne. Elle est inspirée par le personnage d'Alain Chanone qui hante les planchers de la région depuis la plus haute antiquité. Personnage interprété par Depardieu dans le film « Quand j'étais chanteur ».
Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon... Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite. Perdu quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon. Comme un garçon, je n'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi, oh, je ne suis qu'une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai des cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon. Comme un garçon, toi tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté. Mais avec toi je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Oh, je suis une petite fille. Et c'est beaucoup mieux comme ça.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Après cette évocation d'Alain Chanone à Direct, retour au grand homme, un autre grand homme d'Auvergne, René Papu, alias le père Joanet. Comme un garçon, le travestissement. C'était une des clés du succès de René Papu sur les antennes. L'auditeur, rien qu'au son de sa voix, s'imaginait la silhouette qui était devenue la sienne. Et une fois qu'en 1964, Télé Auvergne cohabite avec Radio Clermont Auvergne. Eh ben, il s'en vient tranquillement devant la caméra, avec ses fringues, son béret, sa moustache. Il s'adapte comme ce copain menuisier qui maintenant fabrique des tables de télé.
Eh ben, ce matin, c'est un sympathique menuisier des Mats de Verre que je vais rendre visite. Tiens, on va aller voir cet ami Georges Manna. Bonjour, l'ami.
Ah, bonjour.
Ah, dis-toi, mais ça travaille de bonheur, là.
Eh ben, il faut bien un petit peu, qu'est-ce que vous voulez?
Ah, et ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas des tables de télévision aussi?
Eh ben oui, c'est pour faire des tables de télévision. Vous voyez, il y a quatre grandes souches que j'ai commencé à nettoyer. Et alors, je vais faire un rayon dessus, soit en noyer, soit en frêne. Et en dessous, peut-être en ormeau, avec quatre petites roulettes dessous, comme on achète évidemment dans les magasins, soit clairement.
C'est ça, je suis bien content d'avoir causé avec vous, mon ami Georges Manna. Et j'espère que ça marchera encore longtemps, ce métier. Hein.
Vous pouvez venir me revoir, père Joanet, je serai même très heureux.
Eh bien, c'est entendu. Allez, bon courage, hein, l'ami.
Merci beaucoup.
Au revoir et ménagez-vous. Hein.
Donc sur la table de télé, premier plateau, là il y a un poste très gros, où apparaît toujours le père Joanet, puis sur le plateau du bas, Télé 7 jours peut-être, la montagne, un bouquet de fleurs artificielles. Reste tout de même dans la vie du père Joanet, qui continue à se déployer, un mystère. Celui du châtelain de Chanona. Comment s'est-il inséré dans l'existence de Papu? Dans les années 60, l'Auvergne, c'était plus dans l'accomplissement du destin de Georges Pompidou, le premier ministre natif de Montboudif, élu député du Cantal, était devenu président de la République. Mais non loin, une figure plus altière se poussait du col, Valéry Giscard d'Estaing. Il était d'extraction bourgeoise, sa famille imitait l'aristocratie. Le château de Chanona était décoré de souvenirs de la famille royale qui devait donner à penser aux visiteurs que les Giscard avaient sans doute appartenu à la noblesse d'Ancien Régime sous le nom de Destin. Jamais le père Joanet n'aurait songé à frapper à la porte de Chanona. Mais Giscard, en politique, c'est un as du marketing. Maire de Chamalières, dans l'agglomération de Clermont, il met René Papu dans son jeu. Il en fait, dès 1965, un adjoint. Dans le match de foot extraordinaire que vous allez entendre et que FR3 crut bon de diffuser en 1973, sont opposées deux équipes, le Dynamique Commerce Club, les commerçants de Chamalières, et le Mairie Athletic Club, le conseil municipal. Papu appartient de plein droit à cette dernière. Et dans le reportage de FR3, où Giscard apparaît torse nu, nimbé par le succès dans les vestiaires, il nous semble avoir aperçu Papu au second plan.
À quelques minutes de la fin du match, alors que les commerçants menaient par 2-1, sur une erreur de la défense, l'arbitre siffle le pénalty. Et c'est à M. Giscard d'Estaing qu'incombe la lourde tâche de tenter l'égalisation. M. le maire, dans un style qui fait montre d'une grande maîtrise, marque le but et permet aux deux équipes à la fin du match de repartir dos à dos.
Bon, eh ben, tiens, justement, voilà M. le maire qui arrive. Bon, bonjour M. le maire.
J'étais frappé de voir sur le terrain la qualité de la ligne d'avant de nos adversaires, d'ailleurs.
Ces commerçants n'ont pas été trop coriaces.
Ben vous avez vu que c'était un match assez dur, il y a eu des heures, mais enfin c'était très correct et j'ai remarqué que la foule auvergnate n'était pas venue sur le terrain.
Dans un bon esprit, vous avez réussi le penalty qui a fait le match nul, votre équipe était menée 2-1, je pense.
Oui, alors nous tenions beaucoup, satisfait. Si vous voulez, à ne pas nous faire enfoncer, remarquez un petit petite victoire de l'adversaire était tout à fait naturelle, mais enfin, comme nous avons pu égaliser juste avant la fin, puisqu'il ne restait plus qu'une minute et demie à jouer, après ça, nous avons pris un jeu défensif pour garder l'égalisation.
Ça s'imposait et comme ça, tout le monde est satisfait.
Exactement. Il fallait quand même qu'on marque des buts de part et d'autre, parce que sinon, on aurait cru que nous n'avions pas joué dans un esprit sportif. 2-2, c'est une marque tout à fait classique d'un vrai match de football.
Vous n'avez pas l'intention de persister dans l'équipe de Chamalières, ça ramènerait beaucoup de monde au stade.
Non, il y a de très bons joueurs, d'ailleurs des joueurs en réserve, et là, c'est parce que c'était l'équipe du conseil municipal, mais rien ne démontre que le conseil municipal n'aura pas d'autres initiatives de ce genre dans l'avenir.
Des joueurs en réserve aux élections cantonales de 1979, René Papu marque un but important pour l'équipe de Giscard, devenu président de la République. L'adversaire historique de Giscard, c'est le maire de Clermont-Ferrand, le socialiste Roger Quillot. Eh bien, Giscard envoie dans son canton de Clermont-Nord René Papu. Combat dissymétrique. D'un côté, Quillot, toujours économe de ses gestes, comme des deniers publics, universitaire un peu puritain, éditeur scrupuleux d'Albert Camus, et de l'autre, le truculent René Papu, dont tous se souviennent comme du père Joanet, et avec qui il est facile de boire un coup de chanturgue. Et qui l'emporte ? René Papu, évidemment, qui est d'ailleurs réélu au scrutin suivant, dans le canton, je précise, de Clermont-Ouest. Il faut être précis dans cette biographie qui est restée jusque-là pleine d'obscurité. Comme quoi, les vedettes de la télé ne sont pas trop dans une stratégie politique. Valéry Giscard d'Estaing à Chamalières en disposait d'une autre qui, avant d'être projetée dans la lumière de Midi Première à Paris, avait fait en Auvergne son petit père Joanet. Son émission s'appelait en toute naïveté « Les voyages de Madame Berrichon » et amenait Daniel Gilbert où il fallait.
Monsieur le maire, Mademoiselle Vernet et ses amis, en particulier Madame Berrichon, sont vraiment désolés parce qu'ils n'ont pas pu vous rencontrer. Alors ils m'ont délégué et ils m'ont demandé de vous poser quelques questions.
Et comment vous ont-ils choisi ?
Eh bien, parce que Chamalières, c'est une ville que je connais bien, que je connais même très très bien. Oui, alors ils ont une grande curiosité parce qu'ils ont entendu parler d'un violon dingue que vous avez. Ce violon dingue, en fait, ce n'est pas du tout un violon.
Ah, c'est mieux qu'un violon, oui. C'est un accordéon. Parce que vous voulez peut-être que je vous en joue un petit...
Oui, je veux bien. Puis j'aimerais bien savoir pourquoi vous jouez de l'accordéon. Enfin, pourquoi avoir choisi cet instrument? Parce qu'il est typiquement auvergnat?
Non, pas exactement. Non, ce moment de la guerre, j'étais dans la première armée, et nous sommes entrés en Allemagne et en Autriche, et nous sommes restés en occupation pendant un certain temps. L'occupation n'était pas quelque chose de très actif, et j'ai rencontré un jour un vieux monsieur dans la... banlieue d'Innsbruck, qui m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Alors je me suis dit, au fond, c'est pourquoi pas ? Et j'ai pris ces leçons, mais vous voyez, il y a assez longtemps, ce qui fait que ma pratique est malheureusement un petit peu éloignée. Vous allez d'ailleurs vous en rendre compte.
Non, ça je ne crois pas, j'ai tout à fait confiance. Oui,
bon,
oui, vraiment.
Dans la tenue de circonstance, parce que je ne peux pas jouer avec un veston.
Et nous avions tout prévu, nous avions pris votre accordéon. Monsieur le maire, je pense avoir deviné de quel air il s'agit.
Alors, quel était l'air ?
Je cherche fortune autour du chat noir.
Vous faites plaisir parce que vous aviez du mérite à le reconnaître.
Ah non, j'ai reconnu très facilement. Alors j'ai gagné.
Vous avez gagné.
Et qu'est-ce que j'ai gagné ?
Vous voulez savoir quelle sera votre récompense ?
Oui.
Eh bien, ce sera un deuxième air d'accordéon.
Donc écoutez, moi je suis ravie.
Vous, chers auditeurs, peut-être un peu moins. Alors, rappelant que Daniel Gilbert a difficilement survécu à 1981, mais que René Papu a été réélu au Conseil Général du Puy-de-Dôme. Et qui a-t-il retrouvé à ses côtés ? Simple conseiller général, reprenant à zéro à partir de 1982, Valéry Giscard d'Estaing. René Papu est resté adjoint au maire de Chamalières jusqu'en 1995. Il est mort en l'an 2001. L'Auvergnat vit dans les livres, disait Alexandre Vialatte. L'Auvergnat vit dans la radio, disait le père Joanet. Alors, on n'a pas tout raconté de son existence. Beaucoup de pans sont encore ignorés. Vous nous aiderez peut-être à les reconstituer. Mais comme disait Alexandre Vialatte, dernière citation, on ne peut pas tout voir de l'Auvergne. Il y a toujours une montagne qui nous la cache. Vive l'Auvergne, c'est un morceau de Georges Cantournet. L'émission a été préparée par Martin Cellier et réalisée par Sonia Le Glen à la technique Arnaud Caillet. J'espère, Daniel Fievet, que vous ferez sa place à l'Arverne, dans votre panorama des Gaulois.
Évidemment, nous allons en parler entre autres. C'est vrai qu'on fait un peu d'histoire aujourd'hui, on s'intéresse aux Gaulois dans La Tête au Carré.
Avec Pierre Nouvel, et puis l'auteur d'un excellent livre sur les Celtes.
Oui.
Il s'appelle Laurent Olivier, c'est donc dans un instant. Ça va bientôt être l'heure des informations. Je ne sais pas le dire avec l'accent qu'aurait su prendre le père Joannet, mais il n'y a plus de pastiche aujourd'hui. On est sérieux à France Inter.